Saviez-vous ça? Apparemment, près de 3 futurs rentiers immobiliers sur 4 échouent. Souvent, c'est juste un manque d'analyse au départ.
C'est énorme comme chiffre.
Oui. L'improvisation, ben, ça pardonne plus trop. Surtout qu'en 2025, il faudrait un patrimoine de 750 000 euros pour espérer toucher 2500 euros par mois. C'est quand même pas rien.
Ah oui, les montants deviennent significatifs.
Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble une méthode, issue d'une analyse poussée hein, pour faire un vrai bilan patrimonial, mais spécifiquement pour l'investissement locatif. L'objectif, c'est d'évaluer son potentiel réel et puis de bâtir une stratégie solide. Bon, alors, on décortique ça ?
Absolument. Et vous avez raison. Un diagnostic patrimonial classique, généraliste, ça suffit pas toujours.
D'accord.
Là, il faut vraiment une approche qui est ciblée sur la capacité à générer des revenus passifs, locatifs en l'occurrence. Et cette méthode, eh bien, elle repose sur l'analyse de 4 piliers fondamentaux.
4 piliers, ok. Alors quels sont ces piliers? On commence par le premier. J'imagine que c'est lié à l'argent, la capacité d'investir.
Exactement, c'est ça. La capacité d'investissement, c'est vraiment la base. Alors bien sûr, il y a l'épargne qu'on a de côté.
Oui.
Mais il y a surtout, et c'est clé, le levier bancaire, le crédit.
Ah, le fameux levier.
Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il redevient un peu plus accessible. On parle de taux autour de 3,7% en 2025, d'après nos sources. Alors les banques, elles vont regarder quoi? La stabilité des revenus, ça c'est évident.
Logique.
Mais aussi, et ça c'est très important, la capacité à reconstituer son épargne après avoir fait l'apport.
L'apport, oui, qui est souvent de combien d'ailleurs?
Ben, ça tourne souvent autour de 15 à 25% du montant total du projet. Donc il faut montrer qu'on peut refaire cette épargne.
D'accord. Et vous parliez d'une astuce aussi, optimiser ces crédits qu'on a déjà, ça peut vraiment faire une différence.
Ah oui, tout à fait. Ça peut libérer, tenez-vous bien, 20 à 30% de capacité d'emprunt supplémentaire.
Oui. En réduisant les mensualités de prêts conso, par exemple, ou en renégociant un prêt immobilier existant, ça dégage de la marge pour un nouveau projet. C'est une piste souvent oubliée.
Pas bête du tout, ça. Bon, deuxième pilier alors. Le patrimoine qu'on possède déjà, en quoi il est important?
Alors ça, c'est un point crucial parce qu'il cache souvent un potentiel sous-exploité. Parfois 15 voire 25% du potentiel total qui n'est pas utilisé.
Ah oui, comment ça? Ben, pensez par exemple aux livrets d'épargne qui sont surdotés. C'est-à-dire qu'on a plus que, disons, 6 mois de charges courantes dessus. Cet argent dort et rapporte très peu comparé à un rendement locatif qui peut viser 5, 6, 7%. Ou alors des vieilles assurances-vie peu performantes. Il y a des arbitrages à faire, clairement.
D'accord. Et j'ai vu une idée intéressante, utiliser l'économie d'impôt d'un PER, d'un plan épargne-retraite, pour financer l'apport.
Oui, c'est une synergie possible, effectivement. Les versements sur un PER génèrent une économie d'impôt l'année suivante, et cette économie peut, contribuer à former l'apport pour un investissement locatif. C'est une boucle intéressante.
Malin. Bon, on a donc la capacité d'emprunt et les actifs existants. Troisième pilier, le profil de risque et l'horizon de temps. Ça doit personnaliser la stratégie, j'imagine.
Essentiel, absolument essentiel pour bien calibrer la stratégie. La question c'est, est-ce qu'on tolère bien les petits aléas locatifs?
C'est-à-dire?
Ben, un peu de vacances entre deux locataires, un petit impayé, devoir gérer un dégât des eaux. Si la réponse est oui, on peut peut-être viser des opérations plus rentables.
Comme quoi par exemple?
Des biens à rénover soi-même ou des colocations. Ça offre souvent de meilleurs rendements, mais ça demande plus d'implication, plus de travail.
D'accord.
Si par contre, on cherche la tranquillité avant tout,
oui.
Alors des solutions comme les SCPI, vous savez, ces sociétés civiles de placement immobilier où on achète des parts, ou les résidences-services, type résidence étudiante ou senior, sont plus adaptées. La gestion est entièrement déléguée. C'est plus sûr, mais souvent un peu moins rentable.
Et le fait de vouloir gérer soi-même ou de déléguer, ça pèse lourd dans la balance financière, hein?
Ah oui, clairement. Gérer soi-même, ça veut dire économiser les frais d'agence immobilière. Et ça représente quand même 8 à 12% des loyers encaissés chaque année. C'est pas négligeable.
C'est vrai.
Mais revers de la médaille, ça demande du temps, de l'énergie et aussi quelques compétences. Et puis, il y a l'horizon de placement. Est-ce qu'on vise une rente immédiate ou plutôt une valorisation du capital sur le long terme? Ça change tout.
Logique. Bon, il nous reste le dernier pilier, celui qui fait souvent un peu peur, tout ce qui est fiscal et juridique.
Oui, et c'est crucial, surtout en 2025 avec les règles actuelles. Le choix du régime fiscal, c'est le point stratégique par excellence.
Location nue classique ou location meublée?
Exactement. Entre la location nue, où les revenus sont imposés comme des revenus fonciers, et la location meublée, notamment sous le régime LMNP, loueur meublé non professionnel.
Oui, on en entend beaucoup parler de ce LMNP.
L'impact sur la rentabilité nette peut être énorme.
C'est vraiment si avantageux que ça, le LMNP ?
Pour certains types de biens, oui, très clairement, grâce à un mécanisme comptable qu'on appelle l'amortissement, qui permet en gros de déduire chaque année une partie de la valeur du bien et des meubles, comme si on constatait leur usure théorique.
D'accord.
Eh bien, on peut parfois quasiment diviser par deux l'impôt sur les revenus locatifs.
Ah oui, c'est énorme.
Oui, c'est particulièrement intéressant pour des biens qui ont nécessité des travaux importants ou qui sont bien meublés, car l'amortissement est plus élevé. Et puis, il y a aussi le choix de la structure juridique.
Comme la SCI ?
Par exemple, oui.
Une société civile immobilière peut être utile si on investit à plusieurs, ou pour optimiser la gestion et préparer la transmission du patrimoine. C'est une autre couche d'optimisation.
Bon, c'est clair, il faut une vraie stratégie réfléchie. Mais alors, d'après les analyses, où est-ce que les gens se trompent le plus souvent ? Quelles sont les erreurs classiques ?
L'erreur numéro 1 est de loin. On la retrouve dans 70% des cas étudiés. C'est la sous-estimation des charges réelles.
Ah ! On voit trop beau au départ.
Exactement. On calcule un rendement brut qui a l'air super alléchant, 6%, 7%, mais on oublie ou on minimise la vacance locative, les périodes où l'appartement est vide.
Oui, ça arrive forcément. Forcément. On minimise aussi les grands travaux imprévus. La chaudière qui lâche, la toiture à refaire, plus les taxes foncières, les assurances, les éventuels frais de gestion si on délègue.
Et au final ?
Au final, un rendement brut affiché de 6% peut très bien tomber à 3,2% net réel une fois tout ça pris en compte. Et là, ça change complètement la perspective du projet.
Ah oui, effectivement, ça change tout. Et l'autre grosse erreur fréquente ?
C'est le mauvais choix fiscal. Ça concerne quand même 55% des erreurs relevées dans les études.
Ah oui, c'est énorme aussi.
Oui. Se tromper entre le régime de la location nue et celui de la location meublée, ou même choisir le mauvais régime au sein du meublé, réel ou microbique, ça peut coûter très cher en impôts chaque année. Et ça plombe directement la rentabilité nette finale.
Donc pour résumer cette analyse initiale, ce bilan patrimonial ciblé dont on parlait au début, c'est vraiment ça qui permet d'éviter ces pièges coûteux.
C'est exactement ça. C'est la clé pour éviter les désillusions. D'ailleurs, une étude mentionnée dans nos sources montre que faire auditer, vérifier sa stratégie chaque année par un professionnel, ça réduit de 70% le risque de faire ses erreurs majeures.
70%, ouais.
Ouais. Et ça peut améliorer la performance globale de l'investissement de 15 à 25%. C'est un peu comme un investissement sur l'investissement lui-même, si vous voulez.
D'accord, je vois. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on veut se bâtir un patrimoine immobilier pour générer des rentes, c'est pas juste une question d'accumuler les biens les uns après les autres.
Non, pas du tout.
Ça demande une vraie stratégie personnalisée qui repose sur une analyse sérieuse de ces fameux quatre piliers, la capacité d'investissement, le patrimoine qu'on a déjà, notre profil de risque et puis l'environnement fiscal et juridique. Et surtout, il faut être conscient des pièges potentiels.
Tout à fait. L'improvisation, on l'a vu avec le chiffre du début, ça mène bien trop souvent à l'échec. C'est vraiment la méthode, la rigueur et l'anticipation qui sont les clés du succès dans ce domaine. Faut être préparé.
Et pour terminer, peut-être, une petite question à laisser mûrir. Si on prenait vraiment le temps, là, de regarder nos propres actifs, ceux qui dorment peut-être un peu sur des comptes ou dans de vieux contrats, et si on réfléchissait honnêtement à notre vraie tolérance au risque, sans tricher. Quelles opportunités cachées est-ce que ça pourrait bien révéler pour nos propres objectifs financiers ? Voilà, une question à méditer.